Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Regardez l'immigration en face et tous les ans, à la demande d'Emmanuel Macron, ça commence aujourd'hui à l'Assemblée. Premier débat, jugé nécessaire mais miné par la majorité qui veut en même temps montrer les muscles, mais pas trop quand même, pour préserver son aile gauche. Casse-tête politique dans un instant et reportage dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Château-Double dans le Var. La femme du tueur de la préfecture de Paris remise en liberté cette nuit, elle n'est pas poursuivie. On fera le point sur l'enquête. On s'interrogera sur les ratés de la direction du renseignement de la préfecture avant d'entendre le ministre de l'Intérieur dans 20 minutes.
Oui, Christophe Castaner qui est l'invité du grand entretien de la matinale 01 45 24 7000. Réseaux sociaux, applications mobiles de France Inter pour vos questions.
Dans ce journal aussi, l'incendie de l'usine Lubrizol et l'économie rouennaise qui souffrent. Le premier week-end de travail des citoyens de la Convention sur le climat. L'Irak, ses manifestations quotidienne et ses 100 morts depuis la semaine dernière. Et puis la semaine des Nobel en littérature, il y en aura deux pour le prix d'un jeudi.
France Inter.
Attention, sujet sensible, comment s'emparer du thème de l'immigration pour ne pas le laisser à la droite et au Rassemblement National sans se mettre à dos sa majorité en même temps de droite et de gauche. Il faudra la jouer serrée cet après-midi à l'Assemblée. Pour ce faire, le gouvernement a transmis une synthèse de la situation migratoire à ses députés et va présenter 6 axes de travail. Il n'y aura pas de vote, mais des mesures annoncées plus tard en ligne de mire. Karine Bécard, les municipales, les régionales et la présidentielle.
C'est l'un des effets de la crise des Gilets jaunes. Dans leur circonscription, les députés de La République En Marche, souvent novices, ont dû affronter le sujet de l'immigration. Aujourd'hui, tous reconnaissent, ou à peu près, qu'il faut oser en parler, même l'aile gauche de la majorité. Mais pour l'élu du Vaucluse, Jean-François Cesarini, Emmanuel Macron doit faire attention à ne pas déraper.
C'est pas un débat qui n'est qu'un débat de l'extrême droite. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Par contre, encore une fois, parlons-en avec nos armes à nous, et pas avec les concepts des autres.
Sous-entendu, pas avec les concepts, pas avec les arguments de Marine Le Pen. Or, c'est bien ce qui inquiète une partie de la majorité. L'acte 2 du quinquennat n'est pas qu'une affaire de dialogue et de concertation. C'est surtout une succession d'élections. Et pour la députée du Bas-Rhin, Martine Vonneur, le sujet de l'immigration ne doit pas être utilisé uniquement pour espérer gagner.
On commence par les municipales, mais on ne va plus s'arrêter jusqu'aux prochaines présidentielles. Donc là, il convient d'être particulièrement attentif à rassembler, mais pas aller chercher les extrêmes, et surtout pas cette façon-là.
Donc Emmanuel Macron est assez coincé. Le président va manifestement avoir du mal à imposer des mesures musclées à sa majorité, parce qu'elle refusera de les porter. Seulement, parler d'immigration tout en étant freiné, c'est un pari risqué.
Et parmi les sujets mis sur la table à l'Assemblée, les prestations sociales accordées aux demandeurs d'asile, pour que la France ne soit pas la moins accueillante d'Europe sans être la plus attractive. Pour éclairer ce débat, nous sommes retournés dans le petit village de Château-Double, 450 habitants dans le Var. L'installation là-bas d'un centre d'accueil et d'orientation pour les demandeurs d'asile n'était pas passée inaperçue. Marine Le Pen avait tenté d'y tenir meeting avant d'être repoussée par les habitants. Un an plus tard, ça se passe plutôt bien entre les exilés et les Château-Doublins. Reportage signé Rémi Brancato.
Dans la salle d'activité, ils sont une dizaine devant le tableau.
Je suis ici 8 mois.
Il manque quelque chose.
Anne-Marie, bénévole, donne un cours de français.
Je suis ici depuis.
Des habitants du coin se relaient pour des activités et une aide alimentaire, car pour Mustapha, dans ce village isolé, avec 6,80 euros d'aide de l'État chaque jour, c'est surtout l'ennui qui guette.
On ne touche pas assez d'argent, on a tout juste de quoi manger. On aimerait trouver un travail, mais on n'a pas le droit.
L'an passé, Marine Le Pen est venue contester l'installation du centre, mais depuis, tout se passe bien, assure Cher Sénégalais.
On partage avec aussi les villages. Franchement, on n'a aucun problème avec les gens du village. Ils sont gentils, ils nous invitent, et ça c'est beau.
Et pour le maire, Georges Rouvier, c'est un pari gagné.
Ces gens-là, il y en a qui en avaient vraiment peur, ce que je comprends. Je pense que les idées ont changé. Et ça, j'en suis fier, ouais.
Démonstration dans la salle polyvalente. Ismaël, somalien, fait partie du groupe de musique de Marianne.
Je fais de mon mieux pour chanter en français. En Somalie, ma famille ne voulait pas que je chante, mais ici, je fais ce que je veux.
C'est des gens qui vivent des choses sûrement très difficiles dans leur pays, et le fait que nous, on les accueille, c'est très important.
L'an passé, elle accueillait un Iranien et un Éthiopien dans son groupe, mais seul l'un des deux a obtenu le statut de réfugié, et de l'autre, elle n'a aucune nouvelle.
reportage à réécouter en longueur sur franceinter.fr et c'est une toute autre image qui est donnée en ce moment au nord de Paris où les migrants qui campent sous le périphérique jusqu'à Saint-Denis n'ont jamais été aussi nombreux. Selon les associations, ils seraient entre 2500 et 3000 sur place à vivre dans des conditions indignes.
Il est 8h06, la DRPP, ancienne place forte des renseignements parisiens.
Forteresse assiégée depuis l'attaque de jeudi. 4 morts, 4 membres de cette direction du renseignement tués par un cinquième qui avait montré des signes de radicalisation islamiste. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
On va d'abord faire un point sur l'enquête. Emmanuel, la femme du tueur qui était en garde à vue depuis jeudi a été relâchée cette nuit.
Oui, pour l'instant cela n'a pas permis d'établir si elle était au courant du projet d'attaque de son mari, si l'épouse de Michael Harpon avait pu jouer un rôle dans ce terrible passage à l'acte de jeudi dernier. Dès samedi, le procureur antiterroriste Jean-François Ricard avait déjà confirmé que la perquisition au domicile du couple n'avait rien révélé de probant et que les 33 SMS qu'ils ont échangés le matin même de l'attaque n'étaient qu'à caractère religieux. Les 3 services antiterroristes saisis depuis vendredi soir, dont la DGSI, cherchent donc toujours à établir des liens avec d'éventuels donneurs d'ordre, des personnes qui auraient pu influencer Michael Harpon pour le convaincre de tuer ses propres collègues.
Alors Emmanuel, ce qui continue à poser question au-delà du parcours de l'assaillant, ce sont ces failles du renseignement qu'a reconnu Christophe Castaner hier. Et ça n'est pas la première fois qu'il y a des trous dans la raquette au sein de ce service de la préfecture.
Alors d'abord, pour un service de renseignement, la menace interne est toujours la plus difficile à détecter, hein, des agents retournés qui trahissent leur pays. Mais là, on a eu la confirmation hier avec le rapport de la directrice du renseignement parisien que nous avons publié sur notre site internet qu'il y avait bien eu une alerte en juillet 2015 lors d'une altercation avec des collègues. Michael Harpon, sous le coup de la colère, avait lancé que l'attaque de Charlie Hebdo s'était bien fait pour eux. Un officier spécialiste des phénomènes de radicalisation avait même été prévenu des questions posées régulièrement mais sans faire de rapport écrit qui aurait pu entraîner le renvoi de Michael Harpon. Pour ce service de la DRPP du renseignement parisien, c'est du coup un séisme encore plus profond peut-être que les ratés de ces dernières années, des frères Kouachi à l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray où des surveillances avaient été abandonnées, des alertes non communiquées aux autres services de renseignement. Là, c'est évidemment différent puisque le danger venait de l'intérieur.
Emmanuel Leclerc du service police-justice de France Inter, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner à ce micro donc à 8h20. Christophe Castaner qu'une partie de l'opposition appelle à la démission après cette affaire. 3 adolescents mis en examen pour assassinat en bande organisée après la mort d'un lycéen poignardé au Lila en Seine-Saint-Denis vendredi. Ils ont 14 et 15 ans comme la victime. On parle d'un conflit entre quartiers qui aurait dégénéré. Et puis toujours en banlieue parisienne, un jeune homme de 22 ans est mort dans un accident de moto hier à Villiers-le-Bel, sous les yeux de policiers qui en interpellaient un autre. Le motard qui roulait très vite selon la police a brutalement freiné et percuté un poteau dans sa chute.
Il est 8h09, toujours rassurante, les analyses en provenance de Lubrizol à Rouen.
Les dernières concernent la contamination des légumes, des fruits et du lait dont les récoltes et la vente sont interdites depuis l'incendie. On y a cherché de la dioxine et les résultats sont bons si les prélèvements complémentaires le sont aussi. Nous pourrons lever toutes les restrictions, a expliqué la ministre de la Santé Agnès Buzyn hier soir. Mais 11 jours après la catastrophe, il n'y a pas que les agriculteurs qui sont touchés et inquiets dans la région. Les industriels et les commerçants perdent aussi de l'argent. Des mesures de chômage partiel ont été annoncées et l'image de la métropole en a pris un coup, Claire Chaudière.
Sur la zone industrielle, toute proche de l'incendie, les camions circulent à nouveau. Mais on croise des salariés inquiets, ceux des entreprises clientes ou sous-traitantes de Lubrizol, voisine de la catastrophe, la société de nettoyage Triadis, 54 salariés à elle, cessait son activité.
On ne peut pas faire travailler des salariés dans un environnement amianté.
Henri Petitgan, son porte-parole.
Ce que nous souhaitons, c'est que l'activité reprenne le plus rapidement possible.
Et au-delà des 500 mètres, ce sont des zones plus commerciales qui ont été touchées, explique Loïc Roldan de la CGT Commerce Seine-Maritime.
Il y a des entreprises du commerce qui sont collées quasiment à Lubrizol. Et il y a toutes celles qui ensuite ont été touchées via le nuage de fumée. Rouen est pour l'instant entaché, une sorte de quarantaine.
Avec une fréquentation logiquement en baisse, ce client d'un magasin de bricolage à proximité de l'usine remonte précipitamment dans sa voiture.
Ça sent pas bon dans le magasin, quoi. Je préfère partir du magasin que acheter quelque chose ici, quoi.
Jean-Louis Louvel préside l'agence de développement économique de la métropole. Des centaines d'emplois sont en jeu, soupire ce futur candidat au municipal.
400 collaborateurs de Lubrizol, les sous-traitants, mais ça va aussi plus loin. Juste à côté, vous avez Senalia, avec ses silos, ses réaliers.
Sans oublier ses années de travail sur l'attractivité de Rouen,
Rouen, ruiné en une seule nuit.
On voulait démontrer que Rouen a beaucoup changé. Cette perception, c'était Rouen, une cuvette parfois polluée. Rouen, la belle endormie qui s'est réveillée. Dans quelques heures, tout est altéré en termes d'image.
Mais Rouen se relèvera, martèle déjà la ville et la métropole, même s'il faudra pour cela s'armer d'infiniment de patience et d'énergie.
En Quetigny, Claire Chaudière, une semaine de manifestations surprises dans les capitales du monde entier. Le mouvement Extinction Rébellion lance sa révolution internationale d'octobre, qui s'est déjà traduite par l'occupation d'un centre commercial à Paris ce week-end, méthode exportée par des militants écologistes britanniques pour demander des mesures immédiates contre le réchauffement climatique. Très loin des 150 membres de la Convention pour le climat qui ont pourtant le même objectif. Des citoyens tirés au sort, studieux pendant tout le week-end au Conseil économique et social. Ce fut leur première séquence de travail. Ils ont écouté des experts, des chefs d'entreprise, des militants. Ils se sont constitués en 5 groupes, logement, transport, consommation, alimentation, habitat. Et Sophie Bécherel est allée les voir en fin de session hier.
Motivés, enthousiastes, vendredi au début des débats, ils ont terminé le week-end fatigués. Marine a 20 ans, elle vient de Metz.
Sincèrement, c'était très éprouvant. Il y avait beaucoup d'informations à assimiler d'un coup. Après, un truc génial, c'est qu'on s'entend tous bien, même si on n'a pas forcément les mêmes idées, on arrive à se mettre d'accord et à trouver des petites ententes. Il y a un travail faramineux à faire. On ne sait pas trop par où commencer et on espère vraiment qu'on va pouvoir aboutir à de bonnes solutions.
Grégoire a bien l'intention, entre deux sessions, de creuser le sujet. Des 5 groupes constitués ce week-end, lui se retrouve dans celui qui planche sur la question des émissions de CO2 associées au logement.
C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on nous demande vraiment notre avis sur quels sont les experts qu'on va rencontrer, sur quel domaine, sur tout ce qui est les matériaux, sur tout ce qui est l'énergie, sur toute la réglementation. On a demandé à rencontrer des collectivités territoriales de petite taille ou de grande taille, donc on a vraiment besoin de lumière.
Pendant ces 3 jours, où ils ont reçu beaucoup d'informations et commencé à débattre, les citoyens se sont montrés exigeants. Ce qui comble Laurence Tubiana, la coprésidente de cette convention citoyenne.
Moi, je suis très emballée par leur implication personnelle. Et quand je disais, en entrant dans cette convention, je suis sûre que la société est en avance par rapport à la politique, et bien là, alors là, si je cherchais une preuve, je l'ai trouvée.
Il y aura au total 6 sessions de travail. Prochain rendez-vous le dernier week-end d'octobre.
Au Portugal, les socialistes sont au pouvoir et ils vont le rester. Le Premier ministre António Costa sort renforcé des législatives d'hier dans un Parlement largement dominé par la gauche où il ne manquera donc pas d'alliés pour gouverner. On votait aussi en Tunisie des législatives entre les 2 tours de la présidentielle. Faible participation, 41%. Le parti du finaliste à la présidentielle, Nabi Karoui, qui est en prison, et son principal rival, le parti islamiste Ennahda, revendique tous les deux la tête du scrutin. 8 morts hier soir à Bagdad, plus de 100 depuis mardi dernier et des milliers de blessés. Des manifestations, des répressions quotidiennes en Irak contre la corruption des élites, ce mouvement de manifestation. Le gouvernement a bien tenté d'apaiser la révolte hier en proposant des aides pour les jeunes chômeurs entre autres. Mais ça n'a pas suffi, Lucille Wasserman.
Rien ne fait redescendre la colère dans les rues de Bagdad. Chaque jour, une fois le soleil couché, les manifestants reprennent les rues et de nouveaux affrontements éclatent avec les forces anti-émeutes. Chaque jour, de nouvelles familles irakiennes pleurent la perte d'un de leurs proches, tués par les forces de sécurité ou par des tirs de snipers dont personne ne connaît pour l'heure l'identité. Une violence qui s'abat également sur les médias depuis ce samedi, alors que 3 chaînes de télévision ont été prises pour cible par des groupes armés. Les bureaux ont été ravagés, pillés et en partie brûlés. 6 jours maintenant que la contestation a fait basculer Bagdad dans la violence et que le sud de l'Irak s'est également embrasé. Le Premier ministre irakien a tenté d'apaiser la colère ce dimanche en publiant un plan de mesures sociales visant à satisfaire les demandes de ses manifestants. Des manifestants qui continuent, eux, de se mobiliser sans parti ou chef religieux pour protester contre le chômage, la corruption endémique et les services publics défaillants.
Correspondance à Bagdad, signée Lucille Wasserman. Qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est les Verts. Les nostalgiques ont pu ressortir le refrain hier soir après la victoire de Saint-Etienne face à Lyon. Derby remporté 1-0 par les Verts et leur tout nouvel entraîneur, Claude Puel.
Et enfin, c'est la semaine des Nobel qui commence.
Aujourd'hui, la médecine, demain, la physique, mercredi, la chimie et jeudi, le prix Nobel de littérature. Un peu particulier cette année puisqu'il n'y en a pas eu l'an dernier pour cause de scandale sexuel. On en aura donc 2 pour le prix d'un, 2018-2019, et il se dit, Ilana Mor-Youssef, qu'au moins un des 2 lauréats sera une femme.
L'Académie suédoise va-t-elle récompenser une femme, voire deux, pour faire amende honorable en quelque sorte? Pour Olivier Truc, auteur de l'affaire Nobel, jeudi prochain c'est sûr, les lauréats seront scrutés à la loupe.
On va évidemment compter sur ces deux doigts combien de femmes il va y avoir, une étant le minimum syndical, et après on va décortiquer assurément les écrits de ces deux écrivains à l'aune de ce qui s'est passé.
Ce qui s'est passé, le mari d'une académicienne, le français Jean-Claude Arnaud, condamné pour viol, accusé d'avoir touché indûment des subventions de l'Académie et soupçonné d'avoir fait fuiter des noms de lauréats. Regrettable, estime Mario Vargas Llosa, mais est-ce une raison suffisante pour donner le prix à une femme? Le prix Nobel de littérature 2010 était de passage à Paris ces jours-ci pour y recevoir le prix Château-Latour-Carnet.
C'est pas le sexe, c'est pas la nationalité qui est importante. Il faudrait pas que cette considération prévaut sur la qualité littéraire. C'est ça qui le prix Nobel couronne, n'est-ce pas?
Au jeu des pronostics, Vargas Llosa a déjà son favori.
Je crois que Milan Kundera.
On insiste pour avoir un nom de femme, on suggère Joyce Carol Oates. Mais oui, dit-il, elle a même écrit sur la boxe, c'est incroyable.
Voilà, et à raison d'un Nobel par an depuis 1901, si on enlève celui de 2018 qui sera donc décerné jeudi, sur tout ça, il n'y a eu que 14 femmes prix Nobel de littérature. On citera Toni Morrison, Doris Lessing ou encore Alice Munro.
Merci Florence Paracuelos.